Le sujet dont je voudrais vous entretenir s'insère dans une recherche en cours. C'est une recherche que j'ai commencée il y a longtemps, il y a plus de 10 ans, sur la ville de Kairouan, mais la recherche sur le mariage et sur ce qu'on pourrait appeler la société féminine est pour moi une recherche nouvelle, que j'ai essayé d'aborder auparavant, mais à chaque fois, je rencontrais des obstacles, des problèmes, et j'ai dû renoncer à plusieurs reprises, parce que en tant qu'homme et en tant qu'étranger à cette ville, je n'ai pas pu accéder à ce qu'on pourrait appeler, si on suppose qu'elle est séparée de la société des hommes, la société féminine. J'ai essayé de pénétrer cette société par le biais de l'artisanat, puisque l'artisanat est une activité développé dans cette ville historique. Je n'ai pas réussi, et également par le biais des fêtes, et notamment des mariages, je n'ai pas réussi, mais actuellement je suis en train d'essayer un autre filon, une autre piste, c'est la piste politique, et ça semble marcher assez extraordinairement. Alors qu'auparavant, je ne pensais pas que la politique pouvait me mener vers les femmes. Et c'est dans le cadre d'une recherche action développée par les Nations Unies. Vous savez que les Nations Unies font beaucoup de programmes actuellement sur les femmes et la politique. Une recherche action avec ce que cela implique comme rôle du chercheur, mais également avec les acteurs dans l'élaboration d'une stratégie de changement. Et par donc les femmes politiques, je commence un peu à voir plus clair dans y compris dans les aspects que je n'ai pas pu aborder auparavant, comme le mariage et comme le contrat de mariage dont je vais essayer de parler, mais il s'agit, comme je vous l'ai dit, d'une recherche en cours. Donc je ne vais pas vous présenter des résultats élaborés ou des hypothèses bien ficelées. Alors, d'abord je voudrais avancer quelques précisions, 3 précisions. Premièrement, avec la question du mariage dit kairouanais, le mariage kairouanais, c'est-à-dire relatif à la ville de Kairouan, spécifique à la ville de Kairouan, nous ne sommes pas dans l'actualité juridique et politique. C'est un sujet aujourd'hui caduque. C'est un sujet qui n'a d'autre intérêt que l'intérêt historique et anthropologique. C'est un sujet qui a un intérêt historique et anthropologique et qui n'a plus d'actualité juridique et politique. Pourquoi ? Eh bien, pour la simple raison que la Tunisie dispose depuis l'indépendance du pays, il y a 53 ans, depuis 56, d'un code du statut personnel moderniste où la femme et l'homme ont les mêmes droits. Et donc, par conséquent, il n'y a plus ce qu'on appelle la clause kairouanaise ou bien le contrat dit kairouanais. Donc c'est un sujet caduque sur le plan juridique et politique. Mais il a un grand intérêt, comme on va le voir, historique et anthropologique, parce que cette clause kairouanaise a, et c'est une des hypothèses que je voudrais avancer, a joué un grand rôle dans l'élaboration du code moderniste, qui est le code du statut personnel, qu'on appelle en Tunisie le CSP, code du statut personnel, et qui pourvoit la femme des mêmes droits que l'homme, en matière de mariage, de divorce, de consentement, de tous les aspects de la vie conjugale. Bien. Alors, le point commun, c'est quoi entre le code du statut personnel et le contrat dit kairouanais, c'est l'interdiction de la polygamie. La polygamie est interdite en Tunisie depuis 1956 officiellement, mais on va le voir, dans la clause kairouanaise également, elle est interdite. Et de toute façon, la polygamie et même la bigamie étaient un fait rare en Tunisie, historiquement un fait rare. Les historiens l'ont déjà démontré à partir des archives et on le sait à partir des textes historiques qui sont en notre possession aujourd'hui. Alors, deuxième précision à apporter, c'est qu'avant 1956, avant l'indépendance, et durant cette période qu'on appelle la période du protectorat français, qui va de 1881 à 1956, donc l'espace de 75 ans, comment ça fonctionnait sur le plan du statut personnel? Eh bien, les Tunisiens, qu'ils soient musulmans ou bien israélites, ils relevaient de leurs droits canoniques respectifs et du tribunal correspondant. Tribunal charaïque pour les musulmans et tribunal rabbinique pour les israélites. Quant aux Français et aux Européens de façon générale, on leur appliquait depuis 1881, les choses étaient plus complexes avant, parce qu'il y avait des minorités installées en Tunisie avant le protectorat, et on leur appliquait le droit civil français, le code civil français. Et déjà au cours de cette période de protectorat qui a duré 75 ans, la polygamie existait, mais elle était très limitée, et notamment par deux jugements du tribunal de Tunis, un premier jugement datant du 16 juillet 1894 et un deuxième jugement datant du 22 octobre 1913. Et je vous lis rapidement l'essentiel de ces jugements. Alors, par un jugement du 16 juillet 1894, le tribunal civil de Tunis déclare valable d'après la loi musulmane l'engagement par le mari de passer toutes ses nuits chez la femme qu'il épouse et de ne pas en épouser une autre, sous peine de lui donner, de donner à la femme qu'il épouse, le droit irrévocable de se répudier elle-même. Donc, par ce jugement pris par le tribunal et qui puise à la fois dans le code civil français, mais aussi dans une pratique et dans ce qu'on appelle le contrat d'Ikerouané, par ce jugement, on donne à la femme la seconde épouse, dans le cas où l'homme peut prendre une seconde épouse, comme le lui permet le charia musulman, la loi religieuse musulmane, de se répudier elle-même de lui, donc d'avoir le divorce. Deuxième jugement, 22 octobre 1913, le tribunal civil de Tunis fait obligation pour le mari tunisien polygame, qu'il soit juif ou musulman, de fournir un habitat séparé pour chaque épouse. Donc c'est un autre jugement qui rend difficile la polygamie qui existait, mais qui était, comme je l'ai dit, un fait rare. Alors ces deux jugements montrent la difficulté d'avoir, pour les hommes d'avoir une seconde épouse. Alors quid de la période précoloniale d'avant 1881, comment ça se passait? Bien, là il faudrait qu'on comprenne comment fonctionnait le mariage. Et quels étaient les fondements du contrat de mariage? Bien. Alors, le contrat de mariage qui était établi par deux notaires avait trois fondements. D'abord, le consentement libre et volontaire des parties. Deuxièmement, la dot. Et troisièmement, la notoriété publique. Ce sont des critères que l'on retrouve dans pratiquement tous les mariages. Ce sont des critères, disons, universels. Alors, ce qui nous intéresse dans ces trois critères, c'est la dot. Alors, la dot est à la charge du mari. Elle a une portée, bien entendu, financière, c'est une somme d'argent que le mari verse à sa femme, mais elle a une portée également symbolique, au point que le terme qui la désigne se confond avec celui du contrat de mariage, en langue courante, en langue arabe courante. Alors, c'est le sadaq. C'est le même terme qui désigne la dot et qui désigne le contrat de mariage dans la langue courante, alors que la langue officielle, la langue arabe classique, le désigne autrement en l'appelant aqd nikah, qui veut dire aqd nikah, qui veut dire un contrat de fornication. Et c'est aussi universel comme terme utilisé pour les mariages. Bien. Mais dans la langue courante, on ne dit pas aqd nikah, on ne dit pas contrat de fornication, on dit sadaq, qui veut dire dot, et qui veut dire aussi contrat de mariage. Bien. Alors qu'est-ce que c'est que la dot? C'est comme je l'ai dit, une somme d'argent, de la monnaie d'époque. Il y avait une monnaie d'époque en Tunisie, c'était le riel, qui est devenu après le franc, mais qui se décomposait également en couronne, à laquelle... Une somme d'argent, donc, à laquelle peut s'adjoindre des objets de nature matrimoniale participant au trousseau de l'épouse et qui sont offerts par le prétendant, qui sont offerts par le futur mari. Alors, dans certains contrats, étaient fixées explicitement des obligations réciproques, des obligations matérielles et morales. Et c'est là où nous allons arriver au contrat kérouanais, le contrat dit kérouanais, qui n'était pas applicable seulement à Kérouan, comme son nom le désigne, mais également dans d'autres villes, comme Tunis, par exemple, ou dans d'autres pays, comme l'Algérie. Alors, qu'est-ce qu'il avait de particulier, ce contrat kérouanais? Alors, c'est le fait qu'il contenait une clause explicite et aussi des clauses spécifiques relatives à la vie conjugale et en particulier le droit unilatéral de divorce par la femme. Il donnait à la femme le droit de divorcer de son mari, dans quel cas? Dans le cas justement où le mari prenait une seconde épouse. C'est stipulé dès le début dans le contrat, dans le cas où le mari prend une seconde épouse, la femme a le droit divorcer. Alors cette clause qui est spécifique au contrat kérouanais, on l'appelle contrat kérouanais parce qu'il contient cette clause, était applicable ailleurs qu'à Kérouan, n'est-ce pas? Le nom kérouanais, c'est par référence à la ville de Kérouan, mais pas spécifique seulement à Kérouan. C'est un droit légal pour toute femme, en particulier la kérouanaise, mais pas seulement, de quelque catégorie sociale qu'elle soit, d'exiger de son prétendant, qu'il soit kérouanais d'ailleurs ou non kérouanais, de ne pas prendre une seconde épouse. Et dans le cas où il prend une seconde épouse, elle divorce automatiquement, c'est son droit, sans prêter serment devant le juge. Par le simple fait qu'il prend une seconde épouse, elle devient divorcée. Cette clause donc de divorce unilatéral est exprimée par une formule éloquente. Alors, je traduis littéralement la formule. Et je pourrais vous la lire en arabe s'il y a des arabisants qui s'intéressent à la formule. Alors, le mari, voilà la traduction littérale, et elle est difficile la traduction parce qu'il y a des termes spécifiques à la langue et à la culture. Le mari obéit à son épouse par le biais de la clause d'interdiction, selon la coutume des femmes des gens de Kérouan. Je répète, le mari obéit à son épouse par le biais de la clause d'interdiction, selon la coutume des femmes des gens de Kérouan. En arabe, ta'azzawju li zawjatihi bil ja'l at-tahrimi 'ala 'adati nisa'i ahl al-Qayrawani. Une autre question que l'on pourrait poser au contrat dit kérouanais, est-ce que c'est la seule exigence des femmes kérouanaises ou des femmes qui exigent la clause kérouanaise? Réponse, non, pas du tout. Dans le contrat kérouanais, on trouve d'autres exigences. Alors, quelles sont les autres exigences qu'on trouve dans le contrat kérouanais, mais qu'on peut ne pas trouver, mais généralement il y a d'autres exigences. Alors, une autre exigence que l'on trouve beaucoup à Kérouan, c'est l'obligation exigée par l'épouse d'habiter à Kérouan, de ne pas habiter ailleurs, quand elle épouse notamment un non-kérouanais ou un kérouanais qui compte changer de ville. Elle lui impose dans le contrat une autre clause d'habiter à Kérouan. Une autre clause également, ce sont les visites familiales, ou quand le mari habite à l'extérieur de Kérouan, de retourner régulièrement à Kérouan. Et on arrive également à donner une précision, à préciser la périodicité de ses visites. On dit une fois par mois, elle peut aller voir sa mère, ou bien sa famille, ou bien une fois tous les 6 mois, elle retourne à Kérouan, n'est-ce pas? Une autre obligation que j'ai vue dans certains contrats, mais ça me semble lié au milieu aisé, c'est l'obligation exigée par l'épouse d'avoir une servante pour les tâches domestiques. Et on la retrouve dans certains contrats, On n'arrive pas à savoir exactement de quel milieu, puisque c'est des contrats qui datent. On va voir de quand date la clause kérouanaise, mais il me semble que cette clause est liée à certains milieux favorisés, aisés, ou bien certains milieux d'origine chérifienne, où les femmes sont traitées d'une manière à part, d'une manière différente des autres, n'est-ce pas ? D'origine chérifienne, c'est-à-dire d'origine maraboutique, entre guillemets, d'origine à prétention prophétique. Alors, tout cela, bien sûr, toutes ces clauses-là, ont su de la dot. Alors, il faudrait que je dise quelques mots sur la dot. C'est quoi au juste la dot ? Bien, c'est comme je l'ai dit, une somme due par le mari et dont le contrat stipule les modalités de versement. Généralement, si ce n'est pas toujours la règle, elle est fractionnée. C'est-à-dire qu'il y a plus de la moitié qui est versée au moment de la signature du contrat et l'autre somme est versée plus tard et parfois même lors du décès du mari, et ça rentre même dans l'héritage de la femme ou des enfants de la femme ou des membres de la famille de la femme. N'est-ce pas ? Ceci dit, comme vous le savez, dans le droit musulman, la femme hérite du huitième des biens de son mari, alors que le mari hérite du quart des biens de sa femme. Bien. Alors, c'est quoi la dot, en fait ? La dot, c'est clairement une créance au profit de la femme. N'est-ce pas ? Alors, comment l'interpréter ? On peut l'interpréter comme une légitimation financière, mais aussi symbolique, du mariage. N'est-ce pas ? Et on peut aller plus loin dans le sens emprunté par Jacques Berck en disant qu'elle joue, puisque le mariage devient nul dans le cas où la dot n'est pas versée, elle joue un rôle. C'est ce que dit Berck dans les structures sociales du Haut Atlas, mais aussi dans les contrats qu'il a étudiés. Elle joue un rôle purificateur de l'acte sexuel. N'est-ce pas ? On peut aller jusque-là. Je pense que c'est une piste intéressante aussi. Alors, est-ce que j'ai encore du temps ? Alors, d'où vient le contrat kérouanais ? Mais je reviendrai à la dot et je reviendrai aussi à l'aspect pratique, parce que les clauses sont inscrites dans le contrat et on peut penser qu'elles ne sont pas pratiquées. Or, quand nous examinons les actes notariés, les divorces, puisque les divorces étaient également inscrits sur l'acte de mariage, on se rend compte que nombre de divorces ont été prononcés parce qu'il n'y a pas eu de respect de la clause kérouanaise. Donc c'est une clause qui n'est pas seulement théorique, c'est une pratique. Je n'arrive pas personnellement à chiffrer, mais il y a un grand nombre de divorces qui ont été obtenus parce qu'il n'y a pas eu de respect de cette clause. C'est pas seulement la clause de prendre une deuxième femme, mais la clause de ne pas permettre à la femme de visiter ses parents, la clause de ne pas permettre à la femme d'avoir, et on a un contrat de ce genre où la femme exige d'avoir une villégiature en été. Il y a des clauses qui ne sont pas respectées, et du coup la femme obtient divorce et le juge ne tergiverse pas. Le juge, sur ces clauses, quand la clause est inscrite, il l'applique. Et bien entendu, il y a d'autres divorces qui sont obtenus à cause de l'interférence de la belle-mère, tout ça, c'est des, ou bien de discussions continues, de ce que vous pouvez imaginer concernant de mésententes, bien entendu, de mésententes sexuelles également. Et puis, il y a aussi, on va voir qu'est-ce qu'une kérouanaise a pu ajouter dans le contrat. Il y a aussi des clauses spécifiques aux personnes. Alors, d'où vient, je reviendrai peut-être pour dire, passer des détails, mais ce qui m'intéresse, c'est d'où vient la clause kérouanaise, d'où vient le contrat kérouanais. Alors, j'avancerai trois éléments d'explication. Premièrement, une origine historique ancienne de type princier et aristocratique, puisqu'on retrouve cette clause au temps des Abbassides à Bagdad et du temps des Aghlabites, c'est la dynastie qui a gouverné Kérouan, 8e et 9e siècle. Donc il y a déjà plus de 11 siècles, cette clause est inscrite dans les contrats, même si les contrats que nous possédons ne remontent pas, et ça c'est un des drames de la documentation historique, c'est que les contrats que nous avons ne vont pas plus loin que le 12e siècle, plus loin dans le temps, c'est-à-dire, ne sont pas antérieurs au 12e, 11e, 12e siècle. Nous n'avons pas de contrat du 8e et du 9e, mais nous avons des passages de textes chronologiques qui parlent de cette clause à Bagdad et aussi au Caire et à Kairouan. Donc, première origine, c'est la haute naissance qui permet à la femme de fixer elle-même les conditions de son union. Et comme tout phénomène, c'est connu, ce qui commence dans les hautes sphères, comme la mode, etc., irradie sur le reste de la société. Et la clause kairouanaise, pour la période moderne et contemporaine, puisque nous avons une documentation sur cette période, notamment la période contemporaine, elle traverse tous les milieux sociaux, elle n'est pas spécifique à un milieu, elle n'est pas seulement une pratique des milieux aisés, elle est aussi une pratique des milieux populaires, n'est-ce pas? Mais elle a commencé par être d'origine de haute naissance. Donc, voilà. Deuxième élément d'explication, c'est la distinction sociale et ethnique dans un milieu où joue beaucoup l'opposition arabe-berbère, citadins bédouins. C'est par rapport aux bédouins. C'est par rapport aux bédouins que les Kairouanais, et notamment les Kairouanaises, réinventent et réinscrivent cette clause dans les contrats. C'est-à-dire, nous ne sommes pas, c'est une clause du raffinement citadin, nous ne sommes pas des bédouins, puisque les bédouins avaient comme pratique de changer de femme à chaque récolte abondante. Alors, les citadins, c'est le message qu'ils transmettent. Nous ne changeons pas de femme. Nous tenons à nos femmes, y compris quand elles sont, y compris voilées, cloîtrées, etc. Mais nous tenons à cette femme-là. Et la femme aussi dit, je ne suis pas une bédouine qu'on peut prendre et qu'on peut changer au bout d'une année. Je reste chez moi. Ça, c'est le deuxième élément d'explication. La distinction sociale et ethnique. Troisième élément qui me semble fondamental, j'espère ne pas verser dans l'économicisme, c'est l'économie domestique féminine. Ce qui est spécifique aux femmes kairouanaises, c'est le tissage des tapis. Chaque femme kairouanaise tisse au moins un tapis dans sa vie, n'est-ce pas? Si elle ne gagne pas sa vie en tissant des tapis, et les tapis rapportent de l'argent. Donc, l'économie domestique féminine, artisanale, est génératrice, et avant même d'être artisanale, elle était industrielle, bien entendu, est génératrice d'une autonomie financière qui permet à la femme de s'imposer. Donc, d'avoir un apport au niveau du mariage. Il n'y a pas que la dot que verse le mari. Elle aussi, elle a un apport continuel par la fabrication des tapis. Bien, alors... juste un petit retour en arrière pour dire, dans un contrat, on a trouvé inscrit cette clause kairouanaise par laquelle le mari, le prétendant, accepte de ne pas prendre une seconde épouse, accepte qu'elle est une servante et ajoute... Et ça, c'est un contrat vraiment intéressant. Et ajoute qu'il le fait non pas pour obéir à la clause et à une discussion avec sa femme, mais par affection et amour pour sa femme. Alors, on ne sait pas de quel milieu est issu, quel niveau d'instruction, mais de toute façon, c'est une touche qui est personnelle et qui est importante, qui montre aussi qu'il y a au milieu citadin, au milieu urbain, un raffinement de mœurs qui permet d'exprimer l'amour au niveau du contrat de mariage, chose qui est pratiquement impossible aujourd'hui. Alors, pour conclure, mais nous pouvons revenir et sur la dot, et sur la clause, et sur les origines. Alors, pour conclure, je parlerai des stratégies, puisque c'est aussi l'objet de ce workshop, les stratégies de contournement, c'est-à-dire que tout ne se passe pas d'une manière aussi merveilleuse qu'on le croit, bien entendu, heureusement, il y a toujours des transgressions, des contournements, etc. Alors, je parlerai de deux grandes stratégies de contournement rencontrées dans les textes. Premièrement, un grand jurisconsulte kérouanais qui s'appelle El Bourzouli, qui est un des grands maîtres des fatwas, des nawazen, qui a vécu au XIVe et XVe siècle, raconte dans ses nawazel, dans ses textes de jurisprudence, qu'il avait lui-même émis une fatwa par laquelle il est kérouanais, il est marié à une kérouanaise. Il émet une fatwa par laquelle il annule la clause kérouanaise, puisqu'il a été nommé à Tunis, et que dans le texte, il est dit que... Dans le texte que lui, il a signé, il est dit que la clause kérouanaise s'applique à Kérouan. Et du fait qu'il connaît une mobilité, qu'il devient un grand savant à la mosquée Zitouna de Tunis, l'ancienne université médiévale, il annule, il prend une seconde épouse. Est-ce qu'il fabule ou est-ce que c'est vrai? On ne le sait pas. Mais de toute façon, c'est une stratégie de contournement par laquelle, en se déplaçant d'un milieu à un autre, d'un lieu à un autre, on peut l'annuler, même si certains contrats de mariage disent que le changement de ville n'induit pas un changement de la clause. Mais là, peut-être que lui, il a rédigé de manière telle qu'il pouvait l'annuler. Alors, deuxième contournement qui me semble important, c'est que le contrat dit kérouanais, est une possibilité, un choix, une option parmi d'autres. C'est-à-dire qu'il n'a pas le caractère d'une loi obligatoire. À Kérouan et à l'extérieur de Kérouan, nous pouvons trouver des contrats qui ne contiennent pas de clauses. Donc, ça n'a pas une valeur de loi. Et c'est pour cela qu'elle est, cette clause, limitée dans le temps et dans l'espace. Et elle possède plus une force mythique qu'une force réelle, entre guillemets, historique. Et elle a certainement inspiré le législateur pour le Code du statut personnel. Parce que le Code du statut personnel promulgué par Bourguiba, et il le dit dans le préambule, s'inspire du Code civil français, du Code civil européen, du Code civil moderne, mais aussi s'inspire de la tradition. Et il ne dit pas la clause kérouanaise, mais probablement il s'inspire de là. Cette clause, elle a une force mythique plus qu'une force historique. Bon, si on oppose mythe et histoire, alors que les choses ne se présentent pas ainsi, nous sommes d'accord. N'est-ce pas? Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une année, une historienne algérienne a traité des contrats de mariage en Algérie et du statut de la femme, et elle conclut, après avoir dépouillé les archives et tout ça, elle conclut en disant, pourtant, en Algérie, nous avions la clause kérouanaise. Pourquoi on ne l'applique pas aujourd'hui? C'est-à-dire, vous imaginez dans quelle situation on peut se retrouver en 2008 à demander l'application d'une clause qui date du 8e siècle, n'est-ce pas? Mais parce qu'elle a une force mythique, justement. Alors, pour terminer, je voudrais dire, comme c'est une recherche en cours, que j'aimerais donc... en tant que perspective de recherche, d'abord faire un dépouillement systématique des registres des notaires déposés au tribunal de Kérouan pour savoir comment ça fonctionne exactement et pour savoir aussi qu'au niveau statistique, ça représente combien la clause kérouanaise par rapport à l'ensemble des contrats et puis les possibilités d'avoir autre chose que la clause kérouanaise, ça correspond à combien par rapport à la clause kérouanaise, c'est-à-dire de faire un travail vraiment de dépouillement systématique, d'avoir la possibilité de le faire, notamment avec les étudiants du master. Alors, deuxièmement, c'est d'élargir l'enquête à l'espace public, parce que le mariage n'est qu'un moment, n'est qu'un élément d'une vie, n'est-ce pas? Très important, certes, mais ce n'est qu'un élément, ce n'est qu'un pan, et il faudrait voir dans la vie publique comment ça fonctionne. Et comment on en est venu à la séparation entre hommes et femmes, y compris avec la clause kérouanaise? Comment fonctionne cette séparation dans des espaces comme les mosquées, comme les cimetières, où la femme continue d'être exclue des cortèges funéraires, n'est-ce pas? alors que la femme prépare la mort, fait la mort, n'est-ce pas, dans l'espace domestique. C'est elle qui maîtrise la mort, c'est elle qui l'a fait. Dans les cafés, comment on en vient à l'exclusion? Bon, sans parler des bains morts, là, ça serait aller un peu loin, n'est-ce pas? Voilà, je vous remercie.